La connaissance de la patrie est le fondement de toute véritable instruction civique. On se plaint continuellement que nos enfants ne connaissent pas assez leur pays. S'ils le connaissaient mieux, dit-on avec raison, il l'aimerait encore davantage et pourrait encore mieux le servir. Ainsi commence la préface du Tour de France par deux enfants. Nous sommes en 1877 et ce récit imaginaire d'un périple de deux frères de 7 et 14 ans qui deviendra le manuel scolaire de référence pendant la Troisième République. 140 ans plus tard, deux autres grands enfants ont refait le chemin, non pour nous faire un bréviaire civique de la France d'aujourd'hui, mais comme ça pour voir la France telle qu'elle est. Bonjour Pierre-Adrien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un de ces deux grands-enfants de 27 ans. 27 ans, c'est aussi l'âge de votre compagnon de route et ami d'enfance, Philibert Hume. Vous avez complètement dépassé l'âge d'avoir appris à lire avec le Tour de France par deux enfants.
on a passé ça et puis nous, on a surtout appris l'histoire et la géographie dans des manuels qui disparaissent tous les 5 ans. Et là, on était face à un livre qui a passé des années, des décennies sur les
bibliothèques, les étagères.
Dans les bibliothèques, dans les étagères de générations d'écoliers qui ont appris l'histoire et la géographie avec le Tour de la France par deux enfants d'Augustine Fouillet, écrit sous pseudonyme G. Bruno. Voilà, et on a refait exactement l'itinéraire dans la France d'aujourd'hui.
Vous l'avez vu traîner quelque part ou trôner dans quelques bibliothèques familiales?
Non, moi c'était surtout un prétexte pour m'en aller sur la route.
Pour faire la malle,
ouais. Pour faire la malle. Par contre, Philibert, lui, son grand-père, il en avait beaucoup parlé. Et puis on avait quelques extraits de ce livre quand même dans nos manuels scolaires quand on était plus jeunes. Ouais.
Vous avez appris à lire avec Ratus et ses amis dans
c'est
un
ça,
autre
ouais.
genre, c'est
Ratus,
ça
exactement.
Pour l'édition de 1867 du Tour de France par deux enfants, s'est écoulé à 8 600 000 exemplaires. Il a été réédité plusieurs fois et notamment en 2012. Ce côté donner à l'enfant une idée de la patrie, c'est moins votre devise qu'à Augustine Fouillet, dites donc G. Bruno en 1877. Ça vous parle pas ça?
Bah alors en fait, ce livre, comme l'écrivent très bien Jacques et Mona Ozouf dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, était le manuel des savoirs et des rêves de beaucoup d'écoliers qui en fait ont surtout retenu le voyage initiatique d'André et Julien Wolden sur les routes de France, plutôt que le manuel très moraliste, patriotique qu'il était au départ. Et nous, en fait, on a fait un peu ce voyage, mais l'idée c'était de revisiter notre histoire, revisiter notre géographie, mais par l'école buissonnière, quoi. Donc nous, on était eux étaient en fait des enfants qui devenaient des adultes. Nous, on est des adultes qui faisons tout pour redevenir des enfants
et qui reprenaient le chemin des écoliers. Alors ces deux orphelins, André et Julien Wolden, y décidaient de retrouver la trace de leur oncle paternel qui vivait à Marseille. C'était une quête qu'ils allaient prolonger ensuite sur la façade atlantique jusqu'à la Manche pour enfin terminer leur périple à Orléans. Et vous, comment vous avez procédé pour votre parcours avec Philibert Hume?
Alors nous, on est parti exactement de la porte de France, Falsbourg, là où partent les deux enfants, les deux orphelins, après la guerre de 70. Et puis on a traversé la France d'abord en 204, en Peugeot 204, ma petite voiture qui tient très bien, mais qui nous a lâché hélas à Clermont-Ferrand. Et ensuite, on a pris un peu tous les moyens de locomotion possibles, comme eux faisaient jadis. Ils prenaient une charrette, ils prenaient un paquebot, etc. Et nous, on a pris le TGV, on a pris la France des TER. On a fait du bateau stop, on est arrivé à 7 en bateau, on a pris des vélos le long du canal du Midi, du canal latéral de Garonne, on a pris même les cars Macron pour arriver en Bretagne.
Et les blablacars,
exactement. On a pris la France à portée de main, celle de notre génération aussi, collaborative, et puis on s'est permis évidemment des pas de côté, et surtout on a pris... notamment toute la première partie de notre voyage, on a pris le chemin des écoliers, c'est-à-dire on a pris les départementales, les nationales. Nous, on est les enfants de l'autoroute, de la ligne grande vitesse, et on passe d'un point A à un point B sans se perdre. Et nous, on n'avait pas de GPS, et on s'est permis de passer par des villes qu'on évite aujourd'hui par l'autoroute. Donc c'était quelque chose de très différent. Ouais.
Votre livre, c'est aussi un exercice littéraire, un vrai travail d'écriture. Je précise ou rappelle que vous avez déjà signé deux romans, La Piste Pasolini en 2015 et Les âmes simples l'année suivante. Vous êtes journaliste à L'Équipe et Philibert Hume à Paris Match. Alors vous jouez le jeu jusqu'au bout, vous nous disiez vous partez de Falsbourg. Et la vérité c'est qu'au départ, vous partez de Paris parce que vous êtes deux vrais Parisiens.
Oui c'est ça, on est une région parisienne.
Vous immatriculé 75 ou vous l'avez joué discret et prudent?
C'est une vieille voiture donc il n'y a même pas le département. Donc là-dessus on a très très bien joué.
La 204 n'est pas immatriculée.
Elle n'est pas immatriculée.
Ah oui, bien joué. Parce que vous savez que vous seriez pris quelques réflexions.
Ça joue beaucoup, c'est vrai.
Bon, vous prenez le départ en avril 2017, soit en pleine élection présidentielle. Le vote, d'ailleurs, voilà un devoir citoyen qui n'apparaît pas dans le Tour de France de deux enfants version 1877.
Non, C'est ça. Et alors nous, on est parti pendant l'élection, mais c'était un peu comme c'était un peu du hasard. Et l'objectif, c'était pas justement de refaire ce qu'on peut avoir d'ailleurs à chaque élection, un peu de un voyage sociologique où on va visiter les Français avant l'élection. Nous, c'était un peu du hasard. Et on s'est notamment rendu compte, même pendant les élections, d'une France qui s'en désintéresse totalement. Ça, par exemple, le soir des élections, on voulait aller voir le résultat à 20h. On débouche dans un petit café et où il était hors de question de zapper puisqu'on regardait les feux de l'amour. Ce soir-là, et qu'il était hors de question de passer sur la 1 ou sur la 2 pour voir les élections en direct.
Bah, sinon, on n'avait pas la fin du feuilleton.
Et sinon, il n'y avait pas la fin du feuilleton, voilà. Mais alors, derrière cette petite blague, en fait, se cache quand même une France qui se désintéressait totalement de cette chose-là. Et c'est ce qu'on a pu aussi découvrir à travers tout notre périple, quoi.
Évidemment, pas partout, évidemment, pas partout. Tous, et on retrouve dans votre livre ces nuances. Alors, on démarre la 204. Nous partions donc voir la France et tout début est fascinant, écrivez-vous. Les points de départ donnent une origine minuscule à l'immensité d'un voyage. On allait en voir des villages et du bitume, des routes, des bistrots. Derrière la porte de France, le pays s'ouvrirait infini. Bon, en fait, pas tout de suite, parce qu'il faut déjà sortir de Phalsbourg et vous êtes mal embarqué. C'est pas très glorieux comme départ.
Non, bah c'est très drôle. C'est-à-dire que on ne peut pas passer sous la porte de France parce qu'il y a un pot de géranium. Voilà. Et ce qui est très emblématique des aménagements urbains, où il y a des îlots directionnels, des dodanes, des stops, des...
Ou des ronds-points avec des pots de géranium.
Et des ronds-points avec des pots de géranium. Donc, on doit contourner la porte de France pour s'aventurer en France. Voilà.
Premier crochet, vous relez depuis une heure. Imaginez un pays désolé, les corbeaux au bord de la route ont été perdus au milieu d'une zone commerciale ou industrielle, je sais jamais. Un ensemble de hangars froids et leur parking entouré par des clôtures. Vous allez en croiser quelques-unes des zones comme celle-ci.
Oui, là c'est en l'occurrence l'entrée dans la vallée des Anges, la vallée d'Affench. Vous savez, c'était la vallée des Hucanges, Hayanges, dont on parle beaucoup, avec les raffineries, les hauts fourneaux, dont beaucoup ont été démantelés et puis souvent d'ailleurs élevés à l'identique en Chine. Et ancienne vallée d'or, devenue des vallées de larmes, hein, pour reprendre le terme, puisque atteint par le chômage et la désindustrialisation. Et ça, évidemment, on voit ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé par une France où on ne rentre plus dans aucune ville sans passer par le centre commercial, par des zones industrielles, un peu des zones grises qui empêchent d'entrer dans le centre-ville tout de suite.
Avec des centres-villes qui se meurent, une étude publiée il y a quelques semaines dit que le taux de vacances des commerces atteint les 12%. Vous en verrez quelques-uns des centres-villes vides, Nevers, Autun.
Ouais, puis sans aller jusque dans ces villes-là, par exemple, notre récit est jalonné de petites rencontres et de petits commerçants, et notamment à Dijon, on rencontre une fleuriste et qui nous dit que elle quitte son bail parce que notamment l'arrivée du tramway a causé beaucoup de mal aux commerçants, et elle nous disait nous à Dijon un bail sur deux n'est pas repris. Donc voilà, c'est assez emblématique de ce qui peut se passer dans certaines de ces villes-là.
Vous allez aussi découvrir un libraire à Autun, en Saône-et-Loire, et ça vaut le détour de parler un peu de lui.
Bah oui, parce que à la fois il y a cette France des bails à céder, à vendre, et il y a aussi une France qui résiste, qui tient. Ce libraire-là, Arnaud à Autun, son défi, lui, c'est d'apporter la littérature au plus près du monde périphérique, rural. Et il a une librairie à Autun, donc une ville qui a perdu énormément de ses habitants parce qu'elle a refusé le TGV, parce qu'elle a refusé l'autoroute. Et lui, sa librairie ne désemplit pas. Et on a rencontré, voilà, au bord de la route, pas mal de ces un peu ces fous du village, quoi. Ces gens qui tiennent par leur joie, par leur vocation et qui font plus qu'un métier, quoi.
Mais il a combien de livres chez lui? C'est quelque chose d'extraordinaire.
Il avait près de 40 000 livres de fond dans son fond, voilà, ce qui est considérable.
Donc 15 000 de trop selon sa comptable.
C'est ça, ce que raconte Philibert.
Mais d'ailleurs, avant de partir, il vous fait choisir un livre. Et il y a souvent, on vous fait souvent choisir un livre avant que vous partiez. Même Jackie, dont vous poussez la porte, qui tient un PMU, je ne sais plus où ça, c'est en Saône Loire, je crois, ou à Saint-Loup-sur-Semouse, en Haute-Saône.
Exactement.
Voilà. Il vous offre des livres.
Ce voyage, évidemment, nous on a été éduqués par les livres, on est des passionnés de littérature, donc on traverse aussi la France par les écrivains qu'on aime.
Lesquels, par exemple?
Par exemple, on se rend chez Henri Vincenot en Bourgogne, on parle de Perros, on parle de Xavier Gral en Bretagne.
René Fallet,
ça c'est le Marcel Proust de Philibert qu'on rencontre à Jaligny-sur-Bèbre, évidemment.
Mais alors que René Fallet, c'est quand même beaucoup le Beaujolais aussi.
C'est ça, c'est dans la Bèbre, à Jaligny-sur-Bèbre, dans le Beaujolais, qu'on se rend chez René Fallet, où on répare d'ailleurs notre autoradio dans le petit garage à l'évêque.
Je croyais que c'était le Bourbonnais, moi, cette... Bref, alors, continuons. Ok, donc en tout cas, vous suivez aussi la piste des écrivains que vous aimez.
Exactement, et on voyageait, Philibert avait pris une malle pleine de livres, et en effet, quand on passe chez Arnaud, par exemple, il nous dit, ça c'était vraiment un jeu pour un enfant, il nous dit, choisissez maintenant un livre avant de partir. Donc on est dans une librairie, et on doit choisir un livre qu'on nous offre. Donc c'était formidable.
Et Philibert, vous prenez quoi, vous ?
Moi, je prends la poésie d'Akhmatova, et Philibert prend Marc Bernard. Évidemment, en relisant ces livres tout au long de la route, on repense à tous ces visages qu'on a croisés, à ces gens qui nous ont offert ces livres.
Et Jackie, alors, lui, qu'est-ce qu'il vous offre quand vous partez ? Puis on va parler un petit peu de lui.
Je crois qu'à Philibert, il offre un livre sur l'épopée des Verts, l'AS Saint-Etienne, donc du football, et moi, il m'offre Yves Bonnefoy, la poésie d'Yves Bonnefoy.
Quand vous poussez la porte de son établissement, donc vous entrez dans un bar, la salle est vide, la radio joue New York avec toi, des téléphones, et Jackie vous raconte la grande époque des boîtes de nuit rurales. Est-ce qu'on vous a souvent dit que c'était mieux avant ?
Oui, on nous a beaucoup dit que c'était mieux avant. L'exemple des boîtes de nuit, c'est très important. Il nous raconte qu'il tenait le Beverly sur la route de Lure, la queue le samedi soir, elle allait jusqu'au rond-point en face. Mais c'est un peu emblématique, c'est-à-dire que la disparition des boîtes des discothèques, bon, c'est dû notamment au grand nombre de contrôles routiers maintenant qu'il y a par la gendarmerie.
Les taux d'alcoolémie.
Les taux d'alcoolémie. Mais aussi, maintenant, on n'a plus besoin d'un dance floor pour se rencontrer. Maintenant, c'est vrai que par le smartphone, on rencontre les filles, on rencontre les garçons. Et puis on a la musique à domicile, donc la disparition des boîtes de nuit, c'est quelque chose de très emblématique de ces petits lieux de vie qui peu à peu aussi disparaissent, comme les cafés, les bistrots. Ça, on s'en rencontre beaucoup, notamment dans le Bourbonnais, cher à Philibert, où beaucoup de bistrots disparaissent parce que voilà, à cause des contrôles d'alcoolémie. Et d'ailleurs, si vous remarquez beaucoup, vous verrez que beaucoup, on croise de plus en plus de petites voitures électriques, et ça c'est souvent dû aussi au taux d'alcoolémie et aussi aux gendarmes. Elle avait essayé de retrouver le lendemain des tracteurs dans le fossé parce qu'on rentrait ivre du bistrot. Mais ce sont des petits lieux de vie importants qui, c'est vrai, disparaissent. Et puis, il y en a d'autres qui tiennent. On parlait de ce libraire à Autun. Voilà, il y a aussi une France qui tient. Notamment, moi, je trouve que le bénévolat est très important en France et la fierté du patrimoine local. Beaucoup de gens, quand vous arrivez dans leur village, dans leur ville, vous dites, mais vous êtes passé à côté de ça. On s'est rendu compte qu'on était passé à côté d'énormément de choses, forcément. Et on dit, vous êtes passé, vous n'avez pas vu ça, mais absolument, faites le détour, etc. C'était cette France-là aussi qu'on a visitée.
Et d'où cette épicière ou charcutière qui, quand vous poussez la porte de son établissement en Lorraine, alors que vous sortez vous requinquez d'une cuite à peine, et elle vous donne un bon pâté lorrain, normal.
C'est ça. Et puis elle nous dit, vous savez que c'est le meilleur de la région, etc. Bien sûr, il y a tout le patrimoine aussi culinaire.
Le tour du monde par deux enfants, c'était aussi une manière de se familiariser avec les provinces, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit France des régions, c'est plus politiquement correct. Bon, on dira France tout court, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus sauté aux yeux ? La diversité des régions encore ? Ou au contraire, une uniformisation progressive ?
Moi, je craignais quand même cette uniformisation. Je craignais... C'est vrai qu'on parlait des entrées de ville, des zones commerciales, des ronds-points. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve un peu partout, mais je trouve que cette France des régions, pour reprendre le terme, elle tient encore, et vous rencontrez, quand vous êtes à Marseille ou quand vous êtes dans le Finistère, vous n'avez pas les mêmes visages, vous n'avez pas le même accent, tout ça vit et résiste encore. Donc il y a un vrai et puis une diversité de paysages considérable, ça on s'en rend bien compte quand vous êtes à vélo sur le canal du Midi ou quand vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez deux pays très très différents, quoi.
Le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire. Pour nous, le voyage était un catalyseur. Si vous voulez, on se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif.
Vous dites le mot vulnérable, qu'est-ce que ça apporte d'être vulnérable ?
Beaucoup, dans le sens que on ne peut pas comprendre les gens si on ne partage pas entièrement leur vie, côté positif et côté négatif. Et je crois que dans le mode de voyage que nous avions adopté, où nous étions assez soumis aux accidents, aux impedimenta, aux avatars de toutes sortes, ça nous mettait aussi davantage à même de comprendre les difficultés des gens que nous côtoyons, parce que nous étions en situation d'éprouver les mêmes.
Si je vous comprends bien, votre voyage est plus une approche humaine qu'une approche géographique.
Beaucoup plus, mais cependant, quand on voyage très lentement, on constate que les deux éléments se marient et finissent par se fondre.
Vous voulez dire que l'homme est inscrit dans une réalité géographique,
enfin, oui. Il en est. Oui, on met un certain temps à comprendre la relation de cause à effet qui existe entre ces deux aspects, si vous voulez, du voyage.
Nicolas Bouvier, archives de 1963, il intervenait sur la radio-télévision suisse. Pierre Adrian, qu'est-ce que ça vous évoque, cette manière de parler du voyage comme d'un mode de vie, d'un catalyseur?
C'est superbe, et puis j'aime cette idée du bonheur précaire. Et notamment le fait de voyager en 204, c'est un bonheur précaire. On savait qu'elle pouvait lâcher à tout moment, mais c'était autre chose. Elle a lâché, mais c'était autre chose que de voyager en Tesla. On savait que ça tenait à pas grand-chose. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis nous, on s'est pris un peu aussi pour des... On voulait se prouver que l'aventure était possible sur les petites routes de France à 100 km de Paris. Et on s'est pris, je raconte ça au début du livre.
Heureusement, dites donc.
Mais qu'on n'ait pas besoin de partir à l'autre bout du monde.
Mais vous, les petits parisiens, vous en étiez pas sûr.
C'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment à 25 ans, vous racontez que vous revenez de Sydney, on dit c'est formidable. Ça n'étonne plus personne de partir à l'autre bout du monde, que vous avez fait un an d'Erasmus à Hong Kong, etc. Mais par contre, vous racontez que vous êtes passé à, t'es passé à Nevers, t'es passé à Autun, à Niort, etc. Les gens, ils connaissent pas. C'est un vrai voyage. Et nous, on voulait se prouver. Je raconte, on voulait être des Kerouac lorrains. Ça veut dire, moi, je suis beaucoup habité, justement, par Nicolas Bouvier, par les écrivains de la route, et notamment par Jack Kerouac. C'est vraiment prendre des bouts de vie, des rencontres au bord de la route, à portée de main, et raconter ça. Et c'est l'objectif de ce livre-là. C'est raconter des morceaux de vie, raconter des morceaux du paysage de France, mais à portée de main. C'est possible.
Vous êtes placé sous un haut patronage avec Kerouac. Moi, je voulais vous citer. Parce qu'il se trouve que pendant 4 ans, pour France Culture, j'ai fait une émission de reportage en France qui s'appelait Sur la route. Et oui. J'ai sillonné toute la France pendant 4 ans, entre guillemets, avec mon collègue Yvon Croisier, Olivia Gesbert et Martin Kenen l'avaient fait aussi avant moi. Et je m'étais approprié cette citation d'Adrien, dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, et qui lui fait dire « Peu d'hommes aiment longtemps le voyage, ce prix perpétuel de toutes les habitudes, cette secousse sans cesse donnée à tous les préjugés. Moi, je travaillais à n'avoir nul préjugé et peu d'habitudes. » Vous y êtes allé sans aucun préconçu?
Non, on y est allé sans aucun préconçu. Et je rappelle le titre de ce livre, c'est « Le tour de la France par deux enfants ». Et notre objectif à nous, c'était quand même de découvrir aussi la France avec un regard d'enfant. Voilà, un regard de candeur, un regard... et retrouver aussi par le voyage l'esprit d'enfance. Ça, c'était très important pour nous. Qu'est-ce qui reste d'enfant en nous et qu'est-ce qui reste d'enfant en nous lorsqu'on part à la découverte d'un pays, à la découverte des gens?
Partager la vie des autres aussi, comme le dit Nicolas Bouvier, c'est partager... Alors, il parle des souffrances des gens qui partagent, mais il y a aussi les joies. On ne va pas voir que ceux qui vont mal, on ne va pas les voir que quand ils vont mal.
Non,
il y a beaucoup de joie dans votre exploration.
Il y a beaucoup de joie. Nous qui pensions, par exemple, la France totalement délaissée de la jeunesse, la France rurale, on découvre sur les monts du Lyonnais une fête des conscrits avec des jeunes qui dansent autour des feux.
Vous le fais pas dire, la fête des conscrits.
Voilà, donc là, on danse avec eux. En Anjou, on fait les vendanges chez un vigneron. Donc là, on partage aussi son labeur. Évidemment, on partageait des bouts de vie comme ça au fil de la route.
Est-ce que vous prenez aussi les chemins de traverse? Vous vous laissez guider par une rencontre? Vous poussez une porte que vous n'aviez peut-être pas vue au départ? Vous permettez de vous écarter de l'itinéraire que vous étiez fixé?
Ouais, bien sûr. Par exemple, Philibert, lui, ne conduisait pas. Donc, et parfois, au bord de la route, il me disait, tiens, arrête-toi là. On s'arrêtait. Une fois, on sortait des Vosges, on rencontre un entrepreneur qui nous fait visiter son... Et puis qui nous dit le soir...
C'est une scierie?
Là, c'était du carrelage.
D'accord.
Du carrelage, un carreleur. Mais on a visité aussi une scierie du côté de Clermont-Ferrand. Et là, il nous fait, ce soir, nous, on allait voir la cristallerie de Baccarat, comme les deux enfants dans le livre d'Augustine Fouillet. Et il nous fait, ce soir, nous, il y a un rallye de voitures dans Baccarat. Et on va le courir. Il y a beaucoup de petites entreprises qui sponsorisent des rallyes. Et du coup, on se retrouve, notre entrepreneur, le soir même à Baccarat. On pensait visiter une cristallerie. Et on se retrouve en plein de rallyes nocturnes, avec les pots d'échappement qui hurlent. Enfin, c'était assez drôle, quoi.
Bon, dans leur voyage, André et Julien, là, en 1877, ils apprenaient à faire fonctionner un poêle, ils apprenaient le travail à la ferme, la composition du beurre, les métiers à tricoter. C'était un vrai petit manuel de scoutisme, entre autres. Et vous, vous apprenez quoi? Parce que finalement, vous êtes assez paresseux. Vous aimez bien lever le coude, ça c'est sûr.
C'est vrai que nous, on apprend déjà, on prend notre temps, on apprend à se perdre. Et c'est vrai que eux, ces deux enfants qui, je le disais au début, font tout pour devenir des adultes, apprennent l'économie domestique, ils apprennent l'hygiène, etc. Et nous, c'est un peu le contraire, on fait tout pour essayer d'être des vagabonds. Et c'est un peu plus une éloge de l'oisiveté, notre livre, qu'une éloge du travail, comme on pouvait le lire dans Le Tour de la France par deux enfants.
Et ça n'a jamais créé de crispation dans vos rencontres? On ne s'est jamais moqué de vous? On vous a jamais fait la remarque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on sait que les Français ne ménagent pas leurs efforts, la vie est de plus en plus dure, il faut travailler, et ça a jamais créé de fracture entre vous et ceux que vous rencontriez.
Non, parce qu'on était sur la route, et puis moi je me souviens d'une vieille dame, c'était à Saint-Étienne, qui nous dit deux vieilles dames qui demandent au barman, mais alors, mais qui sont ces deux jeunes hommes, et elle lui répond, ce sont des voyageurs. Et je trouve que tout était là, c'est-à-dire on était des voyageurs. Donc quand vous êtes un voyageur, vous arrivez à un endroit et vous repartez le soir, et donc en fait il n'y a pas le temps de parler de tout ça. Il vous a parlé d'énormément de choses, mais surtout on était des oreilles, on était à l'écoute. Et c'est ça qui était le plus important. C'était d'arriver en tant qu'étranger et d'être tout simplement à l'écoute. Et d'apprendre à se taire, de savoir se taire. Et ça, c'était très important. Ce que je fais pas en ce moment, parce que je parle beaucoup.
Et être à l'écoute, c'est aussi donc éviter d'entendre ce qu'on avait envie d'entendre et de se sentir conforté par des préjugés qu'on avait.
Totalement, bien sûr. C'était la simple découverte comme des enfants.
Voilà, en conclusion, vous n'en tirez aucune.
Aucune, absolument aucune. Spécialiste en rien et aucune conclusion à tirer.
Bon, vous n'allez pas laisser tomber trop vite vos paupières d'enfant alors. C'est pas la fin de votre enfance ce voyage.
Non, c'est pas la fin. L'enfance ne meurt jamais, je crois.
Donc vous aurez toujours ce regard.
J'essaierai de l'avoir. Oui, c'est promis. Allez, on prend le pari.
Merci beaucoup Pierre-Adrien d'être venu ce matin dans les studios de France Culture.
Merci.
Le tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui, coécrit donc avec Philibert Hume. C'est délicieux à lire et c'est aux éditions de l'Équateur. Merci beaucoup.
Merci.